Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1 et vous avez la parole. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une le décès de Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais assassiné dans la rue au Japon en plein meeting. Les dernières informations avec Bernard Delattre sur place. Le méga feu dans le Gard, plus de 600 hectares brûlés, ça semble évoluer favorablement, nous dira Louise Douillet dans un instant. Les départs en vacances, on ira à la rencontre des juilletistes, Mélina Fachin en gare de Strasbourg. On va parler également du masque anti-Covid avec les toutes dernières recommandations du ministre de la Santé, Yasmine Akatou, sera avec nous. Et pour débattre de l'actualité aujourd'hui dans Europe Midi, on est avec Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour Madame la députée.
Bonjour.
Et on sera dans un instant avec Sabrina Sebaï, députée NUPES Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine également. Le Japon est en état de choc. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été assassiné ce matin par un inconnu qui a ouvert le feu sur lui en plein meeting politique dans une ville de province. Shinzo Abe avait dirigé le gouvernement nippon pendant près de 8 ans, jusqu'en 2020. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 à Tokyo, Shinzo Abe était depuis plusieurs heures dans un état désespéré.
Oui, il était en arrêt cardio-respiratoire depuis plus de 7 heures. Les médecins ont fait l'impossible pour le ranimer, mais il aurait fallu un miracle pour qu'il survive. Son décès a été officialisé il y a un peu plus d'une heure. Le tireur est passé aux aveux. Tetsuya Yamagami, c'est son nom. Cet habitant de Nara, la ville où s'est déroulé le drame, est âgé de 41 ans. C'est un ancien militaire. Au début des années 2000, il a servi pendant 3 ans dans la marine japonaise. Ses propos sont assez confus. Il a dit aux enquêteurs qu'il n'appréciait pas le profil et les idées de Shinzo Abe, mais pour autant, et a précisé qu'il ne nourrissait pas de rancune politique particulière à son égard. Ici, depuis ce matin, toutes les télés repassent en boucle des images terrifiantes, le montrant en train de s'approcher dans le dos de Shinzo Abe, puis on le voit, quand il est à moins de 10 mètres de lui, ouvrir le feu à deux reprises. Les Japonais se ruent sur les éditions spéciales que la plupart des quotidiens ont imprimées. La campagne pour les élections sénatoriales de dimanche a été suspendue, et par mesure de sécurité, le Premier ministre Fumio Kishida a annulé les prises de parole en public qu'il avait prévues aujourd'hui et ce week-end. Il est désormais sous protection rapprochée.
Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 à Tokyo, donc pour les dernières informations concernant le décès donc de Shinzo Abe, qui était dans un état désespéré depuis plusieurs heures après avoir s'être fait tirer dessus lors d'un meeting. Dans le secteur de Bessèges, dans le Gard, c'est un incendie majeur qui est à l'œuvre depuis hier. Déjà plus de 600 hectares partis en fumée. Avec la sécheresse et le mistral, la vitesse de propagation a été impressionnante jusque tard hier soir. Une vingtaine de pompiers ont été d'ailleurs légèrement blessés. Et on découvre ce matin l'étendue des dégâts depuis la levée du jour. Les dernières informations avec vous, Louise Douillet, ça semble évoluer favorablement. Dites-nous tout.
À l'heure actuelle, 680 sapeurs-pompiers sont engagés pour lutter contre deux feux. Celui de Générac, qui a parcouru 280 hectares et reste sous surveillance active. Et celui de Bessèges-Bordezac, 620 hectares brûlés. Il progresse moins vite, mais n'est toujours pas maîtrisé. Heureusement, pour le moment, aucune victime à déplorer. Les habitants doivent simplement rester confinés. Et pour ce qui est des dégâts, une maison détruite sur la commune de Bordezac et un garage à Bessèges. Le lieutenant-colonel Agrigny reste sur le qui-vive.
Il y a deux aspects dans les risques d'aujourd'hui. Donc, on est une lisière qui échappe, c'est-à-dire qui propage le feu à une zone extrêmement boisée et non brûlée, c'est-à-dire qui fasse un effet de chalumeau sur une nouvelle zone et qui relance un feu à l'identique et avec la même violence que celle qu'on a connue hier. Et ensuite, le deuxième risque, c'est tout le département. Les températures élevées, une sécheresse marquée et un vent extrêmement important.
Les pompiers avancent mètre par mètre. Ils espèrent éteindre le feu avant la fin du week-end, sinon le début de la semaine prochaine.
Louise Douillet, merci beaucoup Louise. Les élèves sont officiellement en grandes vacances depuis hier soir. C'est donc ce week-end que le premier flot de vacanciers va s'élancer. Un été qui s'annonce chargé, notamment dans les trains. Bonjour Mélina Fachin.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous vous trouvez en gare de Strasbourg et les premiers trains commencent à se remplir, Mélina. Hein ?
Oui, les premiers vacanciers sont bien là, avec leurs grosses valises, leurs lunettes de soleil et leurs chapeaux de paille. Mais avant de profiter de l'océan à Soulac-sur-Mer, c'est un petit périple qui attend aujourd'hui Fanny et ses deux filles.
C'est déjà un retard de 5 minutes, puisque le train n'est pas à l'heure. Ensuite, ce sera la course dans Paris pour essayer de choper le deuxième train. Et bah, le troisième train, bah, il a été supprimé, donc on avisera après. Mais bon, on s'accroche, hein, c'est pour la bonne cause. Après le Covid et tout ça, ça va faire du bien.
Marin, 9 ans, et ses camarades scouts vont moins loin, près de Nancy, pour une semaine en pleine nature avec leur chef Chloé.
On va faire plein d'activités, des constructions de cabanes, des jeux, des randonnées, voilà.
Moi j'ai envie de faire des veillées avec des chamallows et dormir sous la tente. J'avais hâte parce que c'est mon deuxième camp à cause du Covid et c'est mon premier camp louveteau.
Et pour beaucoup comme Mustapha qui part en famille au Maroc, il a fallu faire des économies.
Avec l'inflation, les prix qui augmentent, ça coûte cher les vacances. On a réservé en avance, on a comparé les billets. Ça va parce qu'on a réservé le mois de mars. Et si on regarde maintenant les prix, ça a doublé le prix.
Mais l'essentiel, c'est de partir enfin, de changer un peu d'air pour quelques semaines.
Voilà, chacun a son programme. Merci beaucoup Mélina. Mélina Fachin, correspondante dans le Grand Est pour Europe 1. Notez que les employés des aéroports parisiens ont voté ce matin la levée de leur préavis de grève après avoir obtenu des revalorisations salariales de la part de leur direction, une augmentation générale de 3% pour tous les employés du groupe ADP Aéroports de Paris. Cette augmentation a été obtenue donc par les salariés d'ADP. La route des vacances que vous ne serez pas seul à emprunter aujourd'hui. Dernier préparatif, boucler la valise, arroser les plantes. Et tiens, au fait, quels sont les documents nécessaires pour le Covid ? Question légitime face au rebond de l'épidémie. Plus de 120 000 nouveaux cas hier en 24 heures. Alors, passe vaccinal, test négatif. On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Yasmina Katou. Yasmina, déjà, quelles sont les règles si je pars à l'étranger cet été ?
Eh bien, si vous voyagez en Europe, il n'y a plus aucune restriction. Vous n'avez pas besoin de faire un test antigénique avant de vous rendre en Grèce ou en Italie, par exemple, et ce, que vous soyez vacciné ou non. Pour ceux qui préfèrent les Antilles, pas de test pour les vaccinés avec rappel. Les non-vaccinés, en revanche, eux, devront présenter un PCR ou un antigénique négatif. Pensez à glisser une boîte de masques dans votre valise. Ils sont obligatoires dans les transports en Espagne et en Italie, plus près de chez nous aussi, à Nice, à partir de lundi. Pour les États-Unis et la majorité de l'Amérique latine, pas besoin de test, mais il faudra montrer une preuve de vaccination.
Yasmina, si je suis positif, est-ce que je peux voyager ?
Eh bien, il en va de la responsabilité de chacun, puisqu'aucun test n'est demandé avant de monter dans l'avion. Il faut évidemment éviter. Si vous êtes testé positif sur votre lieu de vacances en France, un isolement de 5 jours est demandé pour les personnes vaccinées. Si vous tombez malade à l'étranger, la règle du pays s'applique et les frais d'hôtel supplémentaires seront à votre charge.
Merci beaucoup Yasmina Katou. Voilà, responsabilité et du bon sens, bien sûr. Il est midi 8, restez bien avec nous sur Europe 1. Jugés pour escroquerie, Platini et Blatter ont été acquittés en Suisse. On va tout vous dire dans un instant, à tout de suite.
Europe midi, Romain Desarbres.
Il est midi 11, merci d'être avec nous. On en vient à l'affaire FIFA Gate. Alors qu'il était soupçonné d'escroquerie, gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres, Michel Platini a été acquitté par le tribunal pénal fédéral de Bellinzone ce vendredi matin, ce matin hein, en Suisse. Johan Tritz en direct avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Le même jugement, acquittement donc, a été prononcé pour Sepp Blatter, hein.
Ouais, une victoire totale pour les deux hommes et notamment Michel Platini qui s'amuse même à faire des comparaisons footballistiques à sa sortie du tribunal.
5 à 0 là, sincèrement, c'est net et sans bavure.
Et il n'a pas tort parce que la juge a donné totalement raison à Michel Platini qui a même émis des doutes sur la thèse de l'accusation. Les soupçons d'escroquerie sont loin d'être avérés, dit-elle. L'ancien dirigeant de la FIFA récupéra même les 2 millions de francs suisses versés en 2011 pour salaire et qui lui a valu ce procès. Après 7 ans d'une bataille acharnée, son honneur est désormais lavé.
Je vis depuis 7 ans dans une forme d'injustice. J'ai essayé d'expliquer depuis le début tout ce qui s'était passé, toute la vérité. La justice suisse aujourd'hui m'a donné raison. Mais c'est 7 ans de calomnie, 7 ans de beaucoup de choses, c'était pas très agréable.
Même si tout n'est pas encore terminé, hein, car l'accusation peut encore faire appel, l'ancien capitaine des Bleus se tourne déjà vers un autre combat, démontrer que c'est la FIFA qui est à la tête de ce complot depuis le début.
traité de corrupteur, de blanchisseur d'argent, de falsificateur, je ne laisserai pas passer. Donc la suite, on verra comment ça se passera. On a le temps, on va réfléchir, mais je ne laisserai rien passer.
Citant d'ailleurs Gianni Infantino, son ancien bras droit et actuel patron de la FIFA, qu'il accuse d'être à l'origine de toute cette manœuvre judiciaire afin de le tenir à l'écart. Aujourd'hui, Michel Platini est libre et n'écarte même pas l'idée de revenir dans le football.
Merci beaucoup, Johan Tritz, envoyé spécial d'Europe 1 en Suisse. Merci, Johan. À Grenoble, hier, en fin d'après-midi, deux hommes roulaient à scooter. Le passager était porteur d'une Kalachnikov. L'homme a visé des policiers qui ont dû répliquer et le conducteur a été tué. Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative de meurtre sur policier, une autre ouverte par l'IGPN, la police des polices. On va en parler dans un instant dans Europe Midi. Un rapport pour rendre la justice aux citoyens présenté ce matin à Emmanuel Macron après de longs mois d'attente. Il s'agit du résultat très attendu des États généraux de la justice que le chef de l'État avait lancé en octobre dernier. Voulu comme une grande consultation citoyenne, 7 groupes thématiques ont travaillé pendant plusieurs mois et ont donc fait des propositions. Gladys Laffitte avec nous, service police-justice d'Europe 1 bien sûr. Qu'est-ce que le rapport préconise ?
Alors clairement, le mot d'ordre, c'est augmenter les moyens, et d'abord les moyens humains. Le comité indépendant préconise de recruter 1500 magistrats sur 5 ans, contre les 1000 prévus par le gouvernement à l'heure actuelle. Augmenter aussi les salaires des magistrats et greffiers, c'est jugé indispensable. C'était un appel des signataires de la tribune dite des 3000, signée par autant de magistrats dénonçant leurs conditions de travail en novembre dernier. Augmentation de moyens ensuite pour la justice civile, c'est-à-dire la justice du quotidien, les divorces, les surendettements. Ensuite, le comité préconise des réformes institutionnelles comme celle de l'indépendance du parquet, à long terme en tout cas. Les sages ont aussi tranché concernant les juges d'instruction. Leur suppression sera prématurée. En revanche, la fin de la Cour de justice de la République qui juge les ministres en exercice doit être envisagée. Voilà quelques mesures qui ont été présentées par Jean-Marc Sauvé au président de la République ce matin. Reste à savoir lesquelles il retiendra.
Gladys Laffitte, merci Gladys. Vous connaissez l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Eh bien, ça marche également dans le football. Surtout pour le club de Villefranche-Beaujolais, qui pourrait monter en Ligue 2 à la place des Girondins de Bordeaux, relégués, vous savez, en national. Alors, le président du club bordelais compte faire appel, mais la procédure, il faut le dire, a peu de chances d'aboutir. Alors, les joueurs de Villefranche-Beaujolais, qu'on surnomme d'ailleurs, notez-le, les Tigres, les joueurs de Villefranche-Beaujolais se frottent les mains et les crampons. Notre correspondant Jean-Luc Boujon les a rencontrés sur leur pelouse.
En football, c'est ce qu'on appelle un petit pousset, le FC Villefranche-Beaujolais. C'est seulement 3 millions d'euros de budget, un stade champêtre de 3000 places avec une seule tribune dans une petite ville de 35 000 habitants posée au pied des vignobles. Mais depuis deux ans, le petit club est devant les gros du championnat national, l'équivalent de la 3e division. Donc si un club doit remplacer Bordeaux en Ligue 2, c'est bien le FC Villefranche-Beaujolais, estime son président Philippe Terrier.
Nous, on est complètement prêts, on est prêts à assumer cette montée. Sportivement, on a prouvé qu'on avait la vocation à évoluer en Ligue 2. Deux ans de suite, on a fait les barrages. Et on est en train de préparer le budget à présenter à la DNCG, donc on sera prêt pour tout de suite attaquer la Ligue 2.
Le club a donné toutes les garanties aux instances du foot, son budget serait doublé à l'étage supérieur et son stade étant trop petit, il irait jouer ses matchs à domicile à Guignon, à 120 km de là, avec des supporters très enthousiastes.
Ça ferait plaisir.
Ce serait génial pour le club.
Si la place elle se présente, on la prend. Hein. On ne va pas se poser de questions hein. Et on va les jouer à fond, ça c'est sûr. Hein. Pour le Beaujolais, pour la région, c'est hyper important.
Sans attendre la décision concernant Bordeaux, le FC Villefranche-Beaujolais se prépare donc à jouer en Ligue 2, ce qui ne lui est arrivé qu'une seule fois dans son histoire, lors de la saison 83-84, il y a 39 ans. Villefranche-sur-Saône, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Midi 17, la météo, c'est très important. Évidemment, la météo avec vous, Marlène Duret. La météo, en un mot, il fait beau, hein ?
Et oui, Romain, la France est sous l'influence d'un anticyclone, du soleil aujourd'hui encore et ce week-end. Alors pour cet après-midi, des petits cumulus de beau temps peuvent apparaître simplement sur les Pyrénées et près de la frontière belge, également sur le relief corse où une petite averse n'est pas exclue. Seule ombre au tableau, les vents Mistral et Tramontane toujours présents dans le sud-est, même si le Mistral a tendance à faiblir légèrement. Les températures seront en hausse sur la moitié nord avec 25 à 30 degrés. Près des côtes de la Manche, c'est plutôt 22-24 et puis au sud, comptez entre 27 et 32 jusqu'à localement 35 degrés sur le pourtour méditerranéen et notamment dans le Gard et l'Hérault.
Marlène Duret, merci Marlène. Midi 18, restez bien avec nous. Les débats d'Europe Midi, dans un instant, on va beaucoup parler évidemment du pouvoir d'achat, mais aussi de l'insécurité et de ce qui s'est passé à Grenoble. On l'a évoqué dans le journal. On est avec Prisca Thévenot, qui est toujours avec nous. Et avec vous, Sabrina Sebaï, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint, vous êtes députée NUPES Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le projet de loi pouvoir d'achat, la prime carburant, tout ça se précise. Est-ce que c'est à la hauteur de la situation? On en parle avec vous et avec Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance, députée des Hauts-de-Seine, et avec Sabrina Sebaï, députée NUPES Europe Écologie des Hauts-de-Seine. Voilà, ce sont les hasards de la programmation, comme on dit, de députés des Hauts-de-Seine aujourd'hui. Le texte va passer à partir du 18 juillet à l'Assemblée nationale. Le gouvernement espère le faire voter au plus tard début août. J'ai le sentiment, vous allez me dire si vous ressentez la même chose, mais j'ai le sentiment qu'un compromis va être trouvé. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Prisca Thévenot, vous qui êtes dans la majorité?
Alors, je ne sais pas si c'est mon sentiment, mais en tout cas, c'est mon souhait le plus intime. Parce que, rappelons-le, c'est celles et ceux qui nous ont élus, les 577 députés, qui seront au final les juges de paix. Les juges de paix, pourquoi? Parce que ce qui nous occupe en ce moment à l'Assemblée nationale, aussi bien en commission, mais à partir de la semaine prochaine dans l'hémicycle, c'est de trouver des solutions pour les problèmes, les problématiques que nous ont adressées les Français, aussi bien pendant les présidentielles que pendant les législatives. Donc, nous devons agir dans les compromis. Bien sûr, il n'y aura pas de compromission. La Première ministre a été très claire dessus, mais il n'y aura pas d'immobilisme. Ce n'est pas entendable pour les Français de se dire que dès cet été, il n'y aura pas des mesures de protection et de défense de leur pouvoir d'achat.
Parce que j'ai entendu Marine Le Pen qui disait je veux voter ce texte, et à la France Insoumise et à la NUPES, il y a une opposition, c'est normal, vous jouez votre rôle, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté de travailler avec la majorité. Qu'est-ce que vous en dites, Sabrina Sebaï?
Ce qui est certain, c'est que ce qui compte après, c'est les Françaises et les Français, donc c'est leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que le compte n'y est absolument pas dans le texte qui est proposé. Et que la question, ce n'est pas tellement ce que nous, on est prêt à voter ou pas dans ce texte, c'est plutôt quel compromis le gouvernement est prêt à faire pour permettre d'améliorer la situation des Françaises et des Français.
Alors, rentrons dans le concret. Qu'est-ce que vous allez proposer chez Europe Écologie Les Verts?
Alors, il y a eu plusieurs propositions, puisqu'on a fait une proposition de loi sur
le
pouvoir d'achat. Là, c'est le SMIC à 1 500 euros net. C'est une des propositions phares. Vous avez plein d'autres propositions.
Aujourd'hui, 1 302 euros net.
Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, les propositions qui sont dans le texte de loi ne rattrapent même pas l'inflation. C'est quand même une vraie difficulté quand on dit qu'on va limiter...
Pas de SMIC à 1 500 euros net, vous ne votez pas?
Mais en tout cas, aujourd'hui, non. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a beaucoup d'autres mesures aujourd'hui qui ne sont absolument pas à la hauteur.
D'émission.
Non. Au contraire, c'est un débat. Attendez.
Oui, mais 1 500 euros net.
Soyons très clairs. Déjà, j'aimerais juste rappeler quelque chose. C'est que l'inflation, malheureusement, n'est pas cernée et ne concerne pas que la France. Elle concerne l'ensemble de l'Europe. Et que, j'aimerais juste rappeler quelque chose... l'inflation en France est la plus basse de toute l'Europe, et c'est quand même en France aussi qu'on a le plus de mesures pour venir endiguer cette inflation et les effets sur le portefeuille des Français. Ce n'est pas anodin, puisque quand l'État agit, ce sont en réalité, c'est avec l'argent des Français qu'on agit, l'argent de tous les Français. Donc rappelons que nous avons un devoir de protection, mais un devoir de protection responsable. Il s'agit d'aider aujourd'hui les Français dans cette crise inflationniste sans venir accabler les générations à venir. Et cette responsabilité, nous devons la porter quand bien même nous sommes élus que pour 5 ans. Ça, j'aimerais le rappeler. Ensuite, le SMIC à 1 500 euros. Je le rappelle encore plusieurs fois. J'aimerais bien peut-être un SMIC à 2 000 euros, à 2 100 euros. Mais rappelons aussi des réalités économiques, des logiques économiques. On le sait très bien, dans le privé, on n'augmente pas. Comme ça, les salaires. Pourquoi ? Parce que ça a des implications par ailleurs.
On peut baisser
notamment
les charges. Hein. Vous baissez
et
les
voilà,
charges.
Exactement.
Non, mais si vous baissez
et donc,
les charges,
je suis d'accord
le salaire
avec
net augmente. Hein.
Vous savez quoi? Je voudrais peut-être falloir venir à l'Assemblée avec nous en commission. Parce que c'est justement sur ce point-là que j'arrivais. Plutôt que de dire bouton magique, j'augmente les salaires. Ce qui ne se fait pas comme ça dans le privé. Ça ne se fait pas comme ça.
Vous
je travaillais
aussi faire des taxations.
J'étais salarié dans le privé.
Faire des taxations
je finis,
sur les
madame,
super-profits.
Vous avez vu, c'est important dans un débat de finir parce que du coup, on va peut-être réussir à avancer ensemble. Vous voulez augmenter le salaire des Français, eh bien oui, on peut aussi le faire en baissant les charges et incitant ainsi à augmenter les salaires sans venir mettre à mal notre tissu productif. Parce que si notre tissu productif tombe, ils n'ont ne créent pas de richesse et qu'on ne crée pas de richesse, on ne la redistribue pas. Au sein de la NUP, vous êtes très intéressé par la redistribution de richesse, mais j'aimerais rappeler quelque chose de très basique. Pour redistribuer, il faut d'abord créer.
Il faut déjà en gagner. Pierre, vous êtes retraité. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour, on est ravis de vous avoir. Merci de nous avoir appelé, Pierre. Vous appelez de Saint-Raphaël, j'allais dire. Bon, c'est un grand classique, mais vous avez de la chance parce que c'est agréable d'habiter à Saint-Raphaël. Hein.
Alors, j'habite Saint-Raphaël parce que je suis en retraite à Saint-Raphaël et que j'ai la chance d'avoir une compagne qui a une grande maison.
Tabac.
Et je vis dans cette grande maison, mais c'est sa maison. Si ma compagne n'était pas là, eh bien, je ne pourrais pas vivre à Saint-Raphaël.
D'accord.
En ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment parce qu'on cuit lamentablement. Mais ça, c'est un...
Bon, ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Bon,
c'est
vous n'allez pas vous plaindre parce qu'il fait trop chaud. Hein. Non,
exactement.
Je pense que vous allez faire pleurer personne. Allez,
ça serait malvenu.
On va parler de l'inflation. Vous dites tous les prix augmentent, mais les retraites n'augmentent pas. Alors, elles vont augmenter un petit peu, les retraites. Bon.
Oui, elles vont. Ça, c'est un futur, j'espère, qu'il sera relativement immédiat. Le problème, c'est que les indices de fonctionnaires que j'ai été bloqués depuis des années. La retraite, je ne me plains pas parce que je ne suis pas le plus à plaindre. J'ai une retraite qui tourne autour de 1600 et quelques euros, ce qui est déjà pas mal à ce que j'entends. Mais avec ces 1600 euros, il faut quand même, comme on dit, drôlement faire attention. Pourquoi ? Parce que les carburants ont augmenté. Je vais aller en vacances chez ma fille. Je pars demain, je vais en vacances. Il faut prévoir 1000 km aller-retour pour aller en Savoie.
Oui.
Il fera moins chaud d'ailleurs. Et le problème, c'est l'autoroute, parce qu'il est hors de question de prendre les nationales, autrement on va augmenter la consommation. Il faut payer l'autoroute, il faut payer l'essence. La voiture, je roule avec une voiture qui a 20 ans, qui est en parfait état, et il est hors de question que je la change pour l'instant. Je fais attention à beaucoup de choses. Il y a des dépenses plutôt plaisir que j'ai reportées à septembre, octobre. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de me mettre en difficulté, de plus rien avoir à la fin du mois sur le compte. C'est quand même... on est obligé d'être attentif. J'étais moins attentif il y a quelques mois, mais vous allez
vous
en
ressentez,
montagne.
Vous savez ce que je vous propose de faire, Pierre ? Restez connecté avec nous. On va faire la petite pause publicitaire. On va écouter le flash, les dernières informations avec Émilie Dez, et on se retrouve juste après. Hein, c'est très intéressant ce que vous nous racontez. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi et demi, merci d'être avec nous. Les débats continuent, on va retrouver Pierre dans un instant qui nous appelle de Saint-Raphaël. Mais tout de suite, c'est le flash, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Les chefs de l'Union européenne dénoncent le meurtre brutal d'un grand démocrate. L'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe est mort quelques heures après avoir été victime d'une attaque par balle. C'était lors d'un meeting électoral. Un suspect a été arrêté, son domicile a été perquisitionné. Shinzo Abe avait quitté son poste de Premier ministre en 2020 après presque 10 ans au pouvoir. Accusé d'escroquerie, Michel Platini a été acquitté par la justice suisse. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé 1 an et 8 mois de prison avec sursis à l'encontre de l'ex-président de l'UEFA. L'incendie qui a déjà ravagé près de 700 hectares de forêt dans le Gard va durer plusieurs jours. Toujours pas maîtrisé, il évolue favorablement mais reste attisé par un vent très fort. Vous êtes nombreux à prendre la route aujourd'hui, premier jour de départ en vacances. Bison futé hisse le drapeau orange au niveau national, rouge même en Île-de-France. Et si vous devez prendre l'avion, pas de perturbations à craindre, en tout cas pas à Paris. Les salariés ont voté la fin de la grève. À Bordeaux, en revanche, 50 vols ont été annulés suite à un mouvement du personnel de la société gestionnaire de la plateforme. Les résultats du brevet des collèges tombent au compte-gouttes. La plupart sont dévoilés aujourd'hui, mais certains collégiens devront attendre le 12 pour être fixé. Et puis le Tour de France, 7e étape aujourd'hui entre Tomblaine et la super planche des belles filles. C'est Tadej Pogacar qui a le maillot jaune sur le dos.
Merci Émilie, on vous retrouve à 13h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Pour pouvoir d'achat, inflation. On en parle avec vous et avec Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, et avec Sabrina Sebaï, députée NUPES, Europe Écologie Les Verts, des Hauts-de-Seine également. Et avec vous, Pierre, merci d'avoir patienté. Vous nous appelez donc de Saint-Raphaël. On entend les petits oiseaux derrière vous. Vous êtes retraité. Vous nous disiez que vous partez en vacances demain, donc vous partez quand même en vacances, mais vous nous dites je fais attention. Vous allez peut-être, ce qu'on dit, vous savez, on dit qu'on peut éco-conduire. On accélère un petit peu moins, on essaye de consommer moins. Ah bah, je connais les trucs. Hein,
oui, ouais. Mais bien sûr, heureusement. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que j'ai une voiture sur laquelle, bien qu'elle ait 20 ans, on peut mettre la consommation instantanée. Et alors là, vous prenez peur et ça vous apprend à conduire différemment, c'est-à-dire à ne pas accélérer, à accélérer progressivement, etc., de manière à ce que la consommation reste raisonnable.
Oui,
et on parvient quand même à faire des économies. Mais bon, tout le monde ne pratique peut-être pas de cette manière. Moi, je suis très attentif parce qu'un plein, c'est un plein.
Surtout en ce moment, je vous confirme. Pierre, vous avez une retraite de 1600, 1700
oui,
euros
près,
par là, hein, autour, de, autour
ouais,
de là. Bon,
à peu près.
Il va y avoir l'augmentation de 4%. Si on doit faire des efforts, ça coûte de l'argent de faire des efforts, d'augmenter les retraites. Alors, est-ce que les retraités doivent être prioritaires ou est-ce que ce sont les jeunes, les actifs qui doivent être prioritaires? Est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est une priorité d'augmenter les retraites? Voilà ma question. Je mets un peu les pieds dans le plat, hein, mais vous avez peut-être des petits-enfants.
Alors, c'est une réponse extrêmement difficile. J'ai presque envie de dire que c'est peut-être pas moi qu'il faudrait augmenter en premier. J'entends autour de moi des gens, et si on se rappelle la genèse, les gilets jaunes et compagnie, il y a quand même des gens qui sont en bien plus grande difficulté que moi.
C'est vrai.
Et c'est ça que moi j'ai envie de dire, si on commençait par eux, ça, je crois que ça leur rendrait peut-être un peu le sourire. Parce que si moi je compte à 50, 60 euros près, vous avez des gens qui eux comptent à 5 euros près. Je caricature, mais on n'en est franchement pas loin.
On n'en est pas loin. Bah écoutez, il y a deux députés avec moi qui sont presque étonnés par votre réponse et qui vont commenter ce que vous venez de nous dire. Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance et députée Renaissance.
Non, moi, la première chose que... Bonjour, monsieur. Moi, la première chose que je voulais vous dire, c'est pas tant que je suis étonnée, mais que, quelque part, je suis rassurée de cet esprit de solidarité qui continue d'exister et qui continue d'exister dans une bienveillance qui... Depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on a l'impression qu'il a disparu. Et par contre, je vais me permettre de vous contredire, monsieur. Non, les retraités aussi, comme vous l'êtes vous, ont besoin de ce coup de pouce. Vous le dites très justement en début de votre prise de parole, que vous avez aussi besoin de faire attention. Vous avez notamment besoin de faire attention pour...
Mais là, vous avez raison. Mais je dirais que moi, j'ai jamais eu faim.
Oui, non, mais c'est pour ça.
Attendez, laissez-moi parler. J'ai jamais eu faim de ma vie. Vous avez le défaut des politiques. Laissez parler les gens, laissez parler les Français et vous en apprendrez beaucoup. J'ai jamais eu faim. Il y a autour de moi des gens qui ont faim tous les mois.
Et des retraités.
Faim. Avoir faim, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se prive. Ça veut dire qu'on va éventuellement se priver pour ses enfants. Et ça, moi, je suis désolé. Oui, j'ai besoin de... Vous me donnez 200 euros de plus, je vais les prendre. Ce n'est pas un souci. Mais j'ai envie de dire que je ne suis pas prioritaire.
Je vais intervenir juste pour recadrer. Quand j'ai dit ça, je ne voulais pas créer une concurrence. Voilà,
ah oui, juste dire. Il n'y a pas de problème.
Voilà, je voulais juste dire. Certains retraités, voilà, on augmente toutes les retraites. Est-ce que
non,
les,
mais
ce
c'est
sont
pour
pas
ça
les
que
actifs
qui. Je me permets quand même de répondre, voilà. Parce que je n'ai pas pu finir ma phrase, mais très bien, parce que le plus important, c'est de vous écouter, monsieur, et vous avez raison. Mais je me permets aussi de vous faire part. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Donc je sais ce que c'est d'avoir des fins de mois difficiles, même pas des fins de mois, des fins de semaine compliquées. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a aussi des retraités qui ont des difficultés à boucler leur budget pour plein de raisons. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas là. Encore une fois, je finis simplement ma phrase pour qu'on soit clair dans mon propos. Il ne s'agit pas là d'opposer les fragilités des uns et des autres, mais de dire que dans une situation inédite dans laquelle nous sommes en ce moment, avec la crise inflationniste, nous devons, et quand je dis nous, c'est l'État, venir protéger les Français là où les prix augmentent, et surtout, et là je vous rejoins à 100%, les plus fragiles.
Là on est d'accord, Là,
Sabrina Sebaï, députée NUPES Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce que vous en dites de ces échanges,
Eh bien, écoutez, déjà, bonjour monsieur, et moi je suis très contente de vous entendre, effectivement, parce que oui, aujourd'hui, il y a des gens qui ont faim, en fait, dans ce pays. Il y a une grosse crise économique qui se ressent. Et quand j'entends dire des fins de mois difficiles, ce n'est pas des fins de mois difficiles. Les gens, ils sont dans le rouge dès le début du mois, en fait. Quand la paye, elle tombe, ils sont déjà à découvert pour payer leurs factures. Et pourtant, ils font l'effort de payer leur loyer immédiatement. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut répondre en deux temps. D'abord, des mesures d'urgence. Parce qu'il y a une crise, il y a une inflation très importante auquel votre texte de loi ne répond pas aujourd'hui, je suis au regret de vous le dire. Il faut des mesures d'urgence.
Là, vous vous adressez
à la députée
Renaissance.
Absolument, à la députée
Renaissance. Donc,
il faut répondre immédiatement avec des augmentations, avec des mesures choc, justement pour permettre à ces personnes de pouvoir vivre et de pouvoir respirer tout simplement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et travailler dans un deuxième temps sur des mesures de long terme pour permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, ce texte de loi permet de limiter la baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a intégré le fait que les Français allaient avoir une baisse du pouvoir d'achat. Ce n'est pas acceptable. Et je vais même vous dire, il y a des mesures pour financer tout ça. Nous, on a proposé de taxer les grands capitales comme Total à hauteur de 25% qui permettent de financer tout ça. Vous, ce que vous avez fait pendant 5 ans et ce que vous allez poursuivre, visiblement, puisqu'on a écouté la feuille de route de Mme Borne, c'est que le ruissellement, pour vous, s'arrête au grand capital. Les Français ne touchent absolument rien du grand capital. Vous avez fait des plans de relance qui ont bénéficié à des grandes entreprises, qui ont fait des plans de licenciement en masse derrière. Et donc, c'est les Français qui passent à la caisse à chaque fois.
Alors, Prisca Thévenot répond à ce que vient de dire la députée NUPES Europe Écologie Les Verts.
Alors, première chose, c'est que le sujet des super-profits, oui, il faut y travailler. Le président de la République s'est prononcé dessus. Même l'Europe s'est prononcée dessus en permettant justement d'avancer sur ces différents sujets. Maintenant, j'aimerais juste qu'on rappelle quelque chose. J'aime bien quand on est toujours en train de passer notre temps, enfin, en tout cas, vous écouter, taper sur les patrons, sur ceux qui créent de l'emploi. Mais quand vous dites que les patrons s'enrichissent comme ça, simplement, j'aimerais juste rappeler qu'ils participent à redistribuer de la valeur, de la richesse qui est créée par leurs salariés, par le simple fait de verser des salaires. Et donc, oui, nous devons veiller à ce que cette redistribution-là soit la plus juste possible au sein de l'entreprise. Ça vous fait rire, pas moi, qu'on parle des Français.
Ça me fait rire parce qu'il y a une différence de salaire très importante entre les gros salaires
et les petits.
Et justement,
on va finir, madame, vous savez, empêcher de
et
parler.
Et quand vous parlez du taxation du grand capital, vous savez qu'il y a d'autres pays européens qui l'ont déjà fait, on est encore en retard.
Si on travaille comme ça à l'Assemblée, ça ne va pas le faire. Et donc, le sujet qu'on a, c'est effectivement de faire en sorte qu'au sein de l'entreprise, ce partage de richesses qui est créé puisse se faire le plus juste possible. D'où la proposition qui a été faite pendant la campagne des présidentielles de pouvoir verser des dividendes, que s'il y a une redistribution qui a été faite par ailleurs aux salariés. Donc je pense qu'encore une fois, l'enjeu est bien celui-là. Maintenant, vous venez dénoncer a priori ce projet de loi qui vient d'arriver. Mais madame la députée, vous êtes députée comme moi. Vous savez très bien que le travail parlementaire, vous et moi, il commence et il a commencé. Donc bien évidemment, venez en commission, travaillons ces sujets, proposer des choses. Et ça m'étonne d'autant plus que je vous sens dans cette démarche-là, et c'est très bien, nous sommes aussi dans cette démarche-là, mais quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, le grand leader de la coalition de gauche de ces législatives, sa grande proposition pour le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est d'appeler à marcher à la rentrée. Mais excusez-moi, l'enjeu, c'est pas d'appeler à marcher à la rentrée, c'est d'agir maintenant. Donc les effets de manche, c'est bien, le travail en commission, c'est peut-être mieux.
Olivier nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes restaurateur. Vous êtes patron de votre restaurant ?
Oui.
Bon, alors tiens, on parlait des patrons justement.
Ça dépend desquels.
Si vous vouliez parler
vous n'avez malheureusement
de
pas aidé les petits.
Donc le SMIC, on va le monter à combien ?
Tiens, on va écouter ce qu'a à nous dire Olivier. Qu'est-ce que vous pensiez de ce qui se disait sur les patrons ? Parce que la gauche, la NUPES tape beaucoup sur vous. Bah, je vous écoute.
J'ai fait un grand virage. Je suis parti de l'extrême gauche, il faut bien dire, quand j'étais gamin. Et maintenant, je suis plutôt à droite, vu ma condition. C'est un parcours plutôt classique. Ce que je sais, en tout cas, c'est que mettre les gens au travail ne remplit pas les urnes de la NUPES. Alors, vous allez me dire, il faut que les gens mangent dans leurs mains. Plus vous allez maîtriser le revenu des gens en donnant, moins ils iront avoir des projets et moins plus ils vont voter pour la gauche.
Enfin, je comprends pas. Dites-moi, expliquez-nous.
Si vous voulez, L'exemple de Jean-Luc Mélenchon qui proposait 1063 € pour rester chez soi. Comment voulez-vous ? Moi, j'ai des filles qui bossent à 24 heures, 12 € brut par mois dans mon resto. Dès le lendemain, elles arrêtaient parce que ça fait 950 € net.
Ça, c'était le revenu jeune. Hein, j'ai plus...
Voilà, le revenu jeune. Ouais. Enfin, la retraite à 23 ans, c'est ce que j'ai déjà dit l'autre jour.
La retraite à 23 ans. C'est vrai que donner 1 000 € à quelqu'un qui sans rien faire.
Alors, aujourd'hui on me posait le pouvoir d'achat. Je ne sais pas combien de pays osent titrer un 20 h en disant gros problème de pouvoir d'achat. Et dans le même temps, entre 600 et 1 million d'emplois non pourvus avec les saisonniers et les remplacements de congés, combien est-il de pays sur cette planète qui osent les deux titres en enchaînement ? Moi, je suis un peu effaré de voir que aujourd'hui, moi, j'ai besoin des remplacements d'été, j'ai besoin de prévoir aussi une embauche ou deux pour la rentrée. Je n'ai aucune candidature.
Vous embauchez à combien, Olivier ?
Moi, j'embauche alors les débutants au SMIC hôtelier, qui est alentour de un peu en dessous de 11 €. Les filles, elles étaient à 12 €. Elles sont à 12 € brut. Au départ, elles étaient à 13% au-dessus du SMIC. Et moi, j'ai trouvé des gens. En fait, c'est pas vraiment le sujet. À l'époque, je trouvais des gens. Aujourd'hui, on ne trouve ni intérim ni embauche.
Et pourquoi ?
Parce que, très sincèrement, je pense qu'on a dévalorisé complètement le travail. Et en fait, c'est une gangrène qui va gagner la plupart des salariés de ce pays. Vous voyez, quand moi, je n'ai rien contre la majorité actuelle, ni le président Macron, il n'y a pas de sujet. Mais vous voyez, nous, on prend les infos chaque matin en pleine figure. Vous comprenez ? On boit notre café et on ouvre, on écoute une radio nationale comme la vôtre. Et en fait, on entend. Hein, les filles qui portent leurs assiettes ici, qui courent comme des bêtes, entendent que on va relever les minima sociaux, notamment le RSA. Mais les gens qui sont au RSA, ils défilent chez nous. Alors pas forcément chez moi, mais chez les confrères qui bossent soir et week-end. Ces gens-là, ils défilent. Ils bossent 2 jours, 3 jours, puis ils s'en vont, puis ils reviennent. Et on les reprend aujourd'hui. On les reprend parce qu'on n'a pas le. Donc et les filles là. Ben ça, le prennent
vous nous dites que le travail ne paye pas assez. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le travail ne paye pas assez et qu'il n'y a pas d'assez grande, une assez grande différence entre le salaire et les minima sociaux. Qu'est-ce que vous en dites, Sabrina Sebaï ?
Que le travail ne paye pas assez, c'est une certitude. Quand on propose la revalorisation du SMIC à 1 500 €,
et inversement, c'est que les minima sociaux sont trop élevés, sont trop intéressants, permettent de vivre, confortablement, mais permettent de vivre.
Absolument pas. Le RSA aujourd'hui, on n'arrive même pas au seuil de pauvreté, donc on en est très loin en fait. Qui vit aujourd'hui avec en moyenne 500 € par mois, c'est un RSA, c'est à peu près ça. Donc je suis désolée en fait, on ne peut pas dire que les minima sociaux sont très proches des salaires aujourd'hui. Par contre, le fait que le salaire aujourd'hui soit bas et qu'il faut revaloriser les salaires, ça c'est un fait, bien évidemment. Et je pense que là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, l'objectif, et d'ailleurs quand on parle de la garantie jeune, c'est pas de dire on donne sans rien faire. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui étudient et qui sont obligés de travailler en parallèle pour pouvoir étudier, pour pouvoir financer leurs études. Nous, ce qu'on propose, c'est de recréer une égalité pour tous et de permettre donc à ces jeunes de pouvoir étudier sans avoir besoin de travailler à côté. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, le RSA n'est accessible qu'à partir de 25 ans. Les jeunes entre 18 et 25 ans, d'ailleurs qui ont été fortement impactés pendant la crise sanitaire, ils faisaient la queue pour des paniers alimentaires. On ne peut pas dire que ces jeunes-là, ils ne font rien. Ils ont travaillé, ils ont subi la crise sanitaire comme tout le monde, ils ont été obligés de faire la queue pour se nourrir, et on propose au contraire de les protéger.
Olivier, qu'est-ce que vous dites à cela ?
Mais où est le problème avec un étudiant qui travaille ? Alors là, aujourd'hui, vous m'entendez, vous dites « tiens, c'est un patron de restaurant ». Alors, madame qui vient de prendre la parole, mon père était RMiste dans les années 90, chômeur de longue durée en fin de droit et RMiste. Il touchait 300 € par mois. J'ai fait toutes mes études à la fac. C'est encore le cas aujourd'hui. Tout est gratuit, mis à part la mutuelle. Oh là là, quelle horreur, il faut payer un petit peu de mutuelle, oh là là. Tout est gratuit. On fait le repas à 1 €. J'ai fait une maîtrise de sciences économiques. J'ai fait 4 ans. Ensuite, j'ai bossé pour un grand groupe. J'ai dit oui à tout. Mon épouse était exactement dans les mêmes conditions. Un seul salaire, 4 enfants. On a bossé comme des bêtes. On a dit oui à tout. On est dans le pays où on peut s'en sortir. Il faut arrêter de pleurer. Et par rapport au pouvoir d'achat, je ne sais pas si vous prenez, si vous avez les mêmes loisirs que moi. Sûrement pas, sûrement pas. Mais baladez-vous dans les centres commerciaux le vendredi soir et le samedi soir. Est-ce que vous avez déjà été garé aussi loin du cinéma ? Jamais. Tout est plein, archi plein. Donc, le pouvoir d'achat, je me demande quand même si ce n'est pas un os à ronger, quelque part, qui fait bien les affaires démagogiques d'un certain nombre de gens, parce que très sincèrement, pour avoir connu, hein, pour avoir connu très sincèrement un père qui mangeait du lard tous les soirs, hein, je me demande quand même si ce n'est pas un peu comme Édouard Leclerc qui se demande s'il n'y a pas une volonté inflationniste par les fournisseurs qui font gonfler les prix et qui font la spéculation. Je me demande vraiment, quand on voit là, dans l'Ouest, on a eu 4 festivals majeurs. C'est 500 balles le week-end par personne. Hein.
Non mais,
Poupée, Hellfest, il y a du fric.
Heureusement, j'allais dire heureusement, Olivier. Sinon, plus personne n'irait dans votre restaurant, plus personne prendrait la voiture, plus personne n'achèterait une voiture, n'irait boire un verre. Enfin, on n'est pas un pays sous-développé. Non, on passe une crise, on traverse une crise. Mais il ne faut pas qu'on le devienne, ça je vous confirme.
Et ça doit passer. Comment vous expliquez que la France entière a besoin de bras et qu'on dise les Français ont un problème de pouvoir d'achat?
Ça, c'est un sujet qui revient tous les jours dans Europe Midi. À chaque fois qu'on parle de travail, effectivement, on a du mal à comprendre qu'il y ait autant d'emplois non pourvus avec plus de 3 millions de chômeurs. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelés au 39-21. Il est 12h48. Les vacances débutent ce soir pour certains. Tiens, les députés prennent des vacances ou pas cet été?
Non.
Non, pas du tout.
En tout cas,
non,
pas tout de suite.
Un petit peu au mois d'août, quand même.
Bah, c'est pas l'objectif. On n'a pas demandé à être élu pour répondre aux problématiques des Français, pour penser à nos vacances. On a beaucoup de travail sur la planche. On a effectivement le texte sur le sanitaire qui est là et qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce que oui, nous devons continuer à faire attention à la crise Covid, mais on a aussi surtout le texte sur le pouvoir d'achat sur lequel il va falloir qu'on travaille. Et puis, c'est rajouté dans le calendrier, la motion de censure qui n'apporte aucune solution en français, mais qu'il va falloir qu'on étudie aussi.
Dans quel état d'esprit sont les professionnels du tourisme? On est en direct avec Nicolas Devilliers. Bonjour Nicolas Devilliers, directeur du Puy du Fou. Merci de nous appeler. Les juilletistes démarrent leurs vacances ce soir. Comment se présente l'été en termes de fréquentation au Puy du Fou?
Bah écoutez, la fréquentation est bonne et je pense que le Puy du Fou, eh bien, suit la logique qui est celle de toute la France, c'est-à-dire que les grands sites touristiques accueillent visiblement du monde. En tout cas, nous, on voit vraiment une fréquentation qui est au rendez-vous, c'est-à-dire que les Français ont besoin de retrouvailles, on le sent. Ils sont très heureux de venir dans un lieu où on peut vivre des émotions en famille avec toutes les générations, et c'est clairement une soif des Français. Donc, on voit aussi les étrangers d'ailleurs qui reviennent aussi petit à petit. Donc, disons que la saison est bonne et qu'elle augure une belle conclusion.
Une bonne conclusion. Plus de Français actuellement, nettement plus de Français que d'étrangers, hein, d'après ce que vous nous dites.
Oui. Ouais. Oui, clairement, parce que les étrangers commencent à revenir, les Néerlandais, les Belges, mais les Anglais ne sont pas encore complètement revenus, et puis on ne retrouve pas les Américains ou les par exemple les clients asiatiques. Donc effectivement, on voit surtout des Européens, et progressivement ils reviennent. On les avait complètement perdus en 2020 et 2021, bien sûr. Donc c'est une joie de les voir revenir sur le territoire français.
Vous faites travailler combien de personnes au Puy du Fou? Tiens, on parlait emploi à l'instant. Il y a deux députés qui vous écoutent, hein, Nicolas Devilliers. Hein. Il y a une députée Renaissance, Prisca Thévenot, et une députée NUPES Europe Écologie Les Verts, Sabrina Sebaï. Vous embauchez, vous faites travailler combien de personnes?
2500 talents travaillent au Puy du Fou, donc c'est beaucoup d'intermittents du spectacle pour certains, d'autres dans des contrats plus classiques. Ce sont des talents permanents, d'autres qui sont saisonniers, et nous avons beaucoup de métiers représentés puisque c'est 450 métiers le Puy du Fou. Vous savez, donc l'hôtellerie, la restauration, les métiers du spectacle, mais aussi des métiers plus discrets, les métiers de la blanchisserie, par exemple, vous voyez, des métiers de la sécurité, de la direction informatique, etc. Donc, nous avons un large panel de métiers et c'est souvent des jeunes qui nous rejoignent. Donc, la moyenne d'âge est très, très jeune puisqu'elle est à peu près de 24 ans dans nos équipes saisonnières. Ouais. Donc, vous voyez, c'est vraiment une formidable occasion pour les jeunes d'apprendre un métier au Puy du Fou et puis de se lancer dans la vie active.
Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent « Tiens, il faut augmenter les salaires en ce moment ?» On en parlait aujourd'hui dans Europe Midi et c'est le sujet de la période.
Ben, vous savez, je crois que ce qui est important, c'est qu'à tout travail mérite salaire. Ouais. Il faut que les salaires soient décents. Nous sommes très attachés à être au-dessus de notre convention collective dans l'univers des loisirs pour que les jeunes qui viennent travailler chez nous puissent s'offrir un logement, puissent s'offrir de quoi se nourrir et puis même, pourquoi pas, se divertir en dehors des heures de travail. C'est très important qu'effectivement l'épanouissement soit considéré aussi par la valorisation et la revalorisation des salaires à chaque fois que c'est nécessaire. Donc oui, nous sommes très attentifs à ça. C'est évidemment fondamental de faire les choses de façon juste et équilibrée pour que eh bien, ceux qui sont plus anciens, ceux qui ont plus de risques parfois dans certains métiers, puissent voir percevoir un salaire qui correspond à ce risque, à cette prise de responsabilité pour certains. Vous voyez. Donc oui, les choses sont faites de façon la plus harmonieuse possible et on voit que eh bien, chez nous, au Puy du Fou, l'atmosphère est sereine, j'allais dire presque familiale dans nos équipes, dans nos 2500 talents. Et donc, c'est la démonstration que le dialogue fonctionne bien à tous les étages avec toutes nos équipes.
Merci beaucoup, Nicolas de Villiers. Bel été à vous. Bel été au Puy du Fou et à tous les parcs de France. Évidemment, merci Prisca Thévenot d'être venue aujourd'hui dans Europe Midi. Belle journée à vous
merci
également.
À vous.
Et merci à vous, Sabrina Sebaïs. C'était votre première participation à Europe Midi. Vous venez d'être élue députée NUPES, Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Et Prisca Thévenot, vous venez aussi d'être élue députée.
Merci à vous.
Merci à toutes les deux. On se retrouve dans un instant avec Richard Virenque. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le Tour de France dans Europe Midi, comme tous les jours avec Richard Virenque.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie. Tout de suite sur la route du Tour.
Richard Virenque avec nous. Bonjour Richard.
Bonjour, bonjour à tous.
Une arrivée au sommet aujourd'hui à 1140 mètres d'altitude. Richard, est-ce qu'on peut dire que les choses sérieuses commencent pour les favoris du Tour ?
Oui, exactement. On va prendre de l'altitude. Le Tour prend une autre ampleur. La montagne, même si elle reste encore modérée, il est clair que les favoris de ce Tour se sont déjà montrés, se sont déjà mis en avant. On va pouvoir peut-être voir les Français à l'attaque. Peut-être première victoire française ce week-end, peut-être dès aujourd'hui. Donc Thibaut Pinot arrive sur ses terres. Donc que de bonnes choses.
Que des bonnes choses, que des bonnes choses. À l'arrivée de cette étape, c'est un véritable enfer pour les coureurs. Hein. Une pente à 24%. Une pente à 24%. C'est quasiment un mur, une pente à 24%, non ?
Oui, c'est un mur. En plus, c'est pas une asphalte. Hein. C'est une piste. C'est-à-dire que les organisateurs ont corsé un peu l'arrivée, c'est-à-dire le dernier kilomètre. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça la pente, la super planche des belles filles. Donc, parce que le dernier kilomètre est assez atypique. Et donc, les images vont être sympas. Mais quand les coureurs vont arriver là, on va dire que le plus dur sera fait. Ils vont se battre pour la victoire d'étape. Je pense que peut-être une échappée ira au bout aujourd'hui et que les favoris derrière s'attaqueront pour le maillot jaune.
Comment ça se gère, tiens, quand on est cycliste, une arrivée avec une pente à 24% sur les 250 derniers mètres ? On y pense, on se prépare ? Comment on se prépare justement ?
Bah, la première chose à faire, c'est de mettre le bon braquet, c'est-à-dire de demander à son mécanicien d'avoir le bon développement. Parce que quand vous arrivez dans un mur à 24%, ce qui ne serait pas bien et qui ferait un peu la honte, c'est de monter à pied. Donc, il faut avoir le bon développement. Parce que si on n'a pas le bon développement, c'est bah, vous calez, hein, vous restez là. Donc, ça, c'est la première chose, avoir le bon développement. Et bon, on va dire qu'il y a une quinzaine de coureurs qui vont espérer s'imposer ou faire quelque chose. Tous les autres vont monter, on va dire, avec qui peuvent. Hein. Donc voilà, ouais. Donc ça va être un peu groupé tôt derrière et la gagne devant.
Bon, le mécanicien n'a pas intérêt à se tromper. C'est l'arrivée la plus difficile de ce Tour 2022 ou pas ?
Non, il y a d'autres arrivées.
Bon.
On va dire que c'est un peu la rentrée des classes. Le Tour prend une autre ampleur. Ça devient très physique à partir de maintenant. C'est à l'été avant, mais maintenant, on est en montagne.
On est en montagne. Pogacar, il peut perdre le maillot jaune aujourd'hui ou pas ?
Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il le perde. Peut-être qu'il va accroître son avance. En tout cas, on va voir. Il sera là, je pense, aux avant-postes et on verra bien.
Et on verra bien. Bon, côté français, la question du jour, Richard. On a des chances. Comment vous voyez les choses ?
Alors, côté français, Thibaut Pinot, je pense qu'il a de réelles chances. Il avait déjà gagné sur cette arrivée. Il est chez lui. Je pense que Thibaut Pinot va avoir on va un peu révéler un peu sa tactique parce que moi, c'est comme ça que j'opérerai. Comme il est loin au classement général, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va prendre les devants et il sera peut-être dans la bonne échappée pour essayer de s'imposer. Et David Gaudu, son équipier qui fait le classement général, qui a fait une très belle place hier, David Gaudu va rester au chaud et éventuellement, sera peut-être un relais pour Thibaut Pinot ou vice-versa. En tout cas, ces deux Français, on risque de les voir aux avant-postes aujourd'hui. Et bien sûr, un certain Romain Bardet, qui lui aussi joue le classement. Hein. Dans le classement général, il y a deux Français qui ont fait apparition dans les 10 premiers. C'est Romain Bardet et David Gaudu, qui sont 9e et 10e.
9e et 10e. Voilà les coulisses du Tour et la tactique de Richard Virenque. Merci beaucoup, Richard. Très bel après-midi. À bientôt. Au revoir, Richard.
Merci, bonne journée à vous, à tous.
Le Tour de France sur Europe 1 avec Richard Virenque.
Voilà, c'était mon dernier Europe Midi avant la pause estivale. On se retrouve fin août, toujours entre midi et 13h, toujours avec le même plaisir. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux et aussi fidèles cette année. On a passé une très belle année ensemble. Vous avez été nombreux à vouloir prendre la parole. On va continuer à échanger, on va continuer à débattre l'année prochaine, toujours dans le respect. C'est un très grand plaisir de vous retrouver tous les jours. Je suis très sincère quand je vous dis ça. Merci également à Christophe Charles qui assure la rédaction en chef, à Emma Benassi qui gère les invités avec beaucoup de brio, beaucoup de talent, et à Rémi Duprat qui réalise cette émission. Merci à tous. Bel été à vous tous et à l'année prochaine. On se retrouve fin août. Dans un instant, c'est Elisabeth Assayag, c'est La France Bouge.
Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui, on va parler d'une France Bouge qui attire les investisseurs étrangers. Vous savez que la France, elle est championne d'Europe des investisseurs étrangers. Et on va en parler avec le directeur général de Business France et tout un tas d'exemples d'entreprises implantées ici, mais aussi à l'étranger. Romain, on vous souhaite de très belles vacances et on est ravis de vous retrouver donc à partir du 29 août à midi.
À la fin août sur Europe 1.
Et lundi, ce sera Raphaël Delvolvé pour Europe Midi.